Europe 1. Europe 1.
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes en Campanie, au sud de l'Italie, lors de la première année du règne de l'empereur Titus, comprenez l'an 79 de notre ère. Un certain Caius Plinius Caecilius Secundus, plus connu à notre époque sous le nom de Pline le Jeune, est à Mycène, petite ville portuaire sur les rives de ce qui est aujourd'hui la baie de Naples. Le jeune homme de 18 ans vit auprès de sa mère et de son oncle Pline l'Ancien, homme politique, savant et chef militaire, qui dirige alors une flotte de l'Empire. Il est environ 13h, ce jour d'octobre, quand l'attention de tous est attirée par l'immense panache qui s'élève dans le ciel de l'autre côté de la baie. La fumée semble jaillir d'une montagne et ne cesse de monter dans les airs. Pline l'Ancien, passionné par les prodiges de la nature, décide d'affréter un navire pour se rapprocher et ainsi mieux observer le phénomène. Mais un messager lui fait parvenir l'appel au secours d'une amie dont la demeure se situe au plus près de ce menaçant nuage. Il réalise alors la gravité de la situation et décide de partir avec plusieurs embarcations au secours des populations en danger. Un geste altruiste mais vain, puisque hélas, il n'en reviendra pas. Pline l'Ancien finit asphyxié par les gaz volcaniques. Les Romains n'ont alors pas vraiment d'explication à ces manifestations telluriques. Ils voyaient à l'époque le mont Somma comme une inoffensive et verdoyante montagne veillant sur la baie. Or c'est bien d'une éruption dont il s'agit, ce que l'on saura plus tard être le Vésuve, a explosé et crache un souffle de mort sur la région. Après une nuit agitée d'une succession de tremblements de terre, et alors que Pline l'Ancien périt donc d'avoir voulu secourir des habitants, Pline le Jeune et sa mère décident, à l'instar de toute la population de Mycène, de s'enfuir pendant que les fumées obscurcissent le jour comme en pleine nuit. Du panache gris qui grossit encore jaillissent des flammes pareilles à des éclairs. Un déluge de cendres retombe au sol. Plus tard dans la journée, le calme revient doucement et la nuée se dissipe en laissant transparaître un soleil jaunâtre. Pline, en route vers un lieu plus sûr, peut alors poser son regard sur le désastre et écrira plus tard dans une lettre « Tout s'est montré changé à nos yeux encore troublés et nous ne trouvions rien qui ne fût caché sur des monceaux de cendres comme sous un manteau de neige. » Si Pline et sa mère sont en sécurité de l'autre côté de la baie, au sud du Vésuve, le manteau de cendres est si épais que tout est enseveli. Les champs, les vignes, les fermes, les domaines, les demeures, les temples et les cités entières sont engloutis sous des mètres et des mètres de matière volcanique. Parmi ces cités, il en est une désormais la plus célèbre, dont je vous raconte cet après-midi la longue histoire, Pompéi. C'est probablement la jonction de plusieurs villages au 7e siècle avant Jésus-Christ qui voit naître petit à petit le centre urbain qui deviendra Pompéi. En ces temps éloignés, l'Italie abrite une myriade de peuples. Au nord et au centre, au-delà notamment des Ligures et Vénètes, les Étrusques sont peut-être les plus brillants, en tout cas plus avancés et puissants que les Latins, qui assemblés autour de la petite cité de Rome ne rayonnent pour l'instant ni sur la péninsule ni sur la Méditerranée. Plus au sud, on trouve les Ombriens, les Osques, mais aussi les Grecs avec leurs colonies implantées sur les côtes méridionales, dont l'une, Néapolis, deviendra la ville de Naples. Dans ce monde poreux où les cultures se nourrissent les unes des autres, tant par les conflits que par le commerce, il semble que les Étrusques, puis les Grecs, soient à l'origine des premiers sanctuaires de Pompéi. Protégée derrière ces épaisses murailles, la ville jouit alors d'une position stratégique à l'embouchure du fleuve Sarno, qui permet d'ouvrir l'intérieur des terres et leurs richesses agricoles vers la mer et le commerce. Après un léger déclin, c'est sous l'auspice des Samnites, peuple originaire des montagnes centrales, que Pompéi atteint son apogée au 2e siècle avant notre ère et se latinise dans une péninsule qui passe sous la domination totale de Rome. Et en 80 avant Jésus-Christ, Pompéi devient officiellement une colonie romaine. Le fertile arrière-pays, dominé par la placide silhouette d'une montagne parsemée de vignes et oliviers, enrichit les propriétaires terriens, puis une large classe de marchands et d'artisans. En plus des temples d'Apollon, d'Isis, d'Athéna et d'Asclépios, des thermes, deux forums, une basilique, des palestres, deux théâtres et un amphithéâtre occupent le plateau légèrement en pente non loin du rivage. Sur plus de 60 hectares se déploie un urbanisme aussi esthétiquement raffiné que technologiquement abouti. Les vastes maisons patriciennes dégorgent de luxe, les boutiques et ateliers sont nombreux, les habitations s'alignent, souvent sur deux niveaux, le long d'artères ordonnées, pavés et bordés de trottoirs en pierre. À l'époque d'Auguste, premier empereur romain, un aqueduc vient compléter le système d'adduction en eau organisé autour de citernes, canaux souterrains et rigoles qui nourrissent les dizaines de fontaines au coin des rues. C'est donc une cité florissante, vous l'avez compris, qui, au premier siècle de notre ère, subit une véritable catastrophe. Si la région est sujette à de récurrents tremblements de terre, celui du mois de février de l'an 62 est particulièrement violent et destructeur. La vie économique de la cité s'en voit bouleversée, pour un temps évidemment ralentie. Certains des plus privilégiés préfèrent fuir pour d'autres contrées et des grandes maisons aristocratiques sont parfois réaménagées en locaux, commerciaux ou compartimentées pour d'autres logements. Le temple de Jupiter est effondré et l'on traîne à le reconstruire. Il faut plusieurs années pour que la ville se relève doucement. Une nouvelle classe de marchands émerge pour relancer l'activité. Tout semble rentrer dans l'ordre. Pompéi renaît. Quand un cataclysme succède à la catastrophe. En cette fin de matinée d'automne 79, chacun vaque à ses occupations lorsque, je vous le disais, la ville est surprise par un grondement, puis une gigantesque explosion. De la montagne à une dizaine de kilomètres au nord, facilement visible depuis différents endroits de la cité, jaillit un nuage de fumée. Le panache assombrit le ciel puis finit par se disloquer en une véritable pluie de matériaux volcaniques. Ce sont des pierres ponces de quelques millimètres ou centimètres. Elles tombent comme la grêle et s'amoncellent sur les espaces découverts, pendant que les habitants qui n'ont pas déjà fui se terrent à l'intérieur des bâtiments. Mal leur en a pris. Les pierres s'accumulent, en une heure déjà, 20 centimètres. Cet étrange manteau ne cesse de grossir, bloque bientôt les portes, les volets, s'amasse sur les toits dont les plus fragiles commencent à céder et déversent leur fardeau dans les intérieurs. À ces pierres blanches succèdent des plus foncées, mêlées de cendres, qui font grossir la couche recouvrant le sol, sur laquelle des habitants apeurés courent péniblement pour se sauver. Dans la nuit, d'autres explosions retentissent. La terre tremble et bientôt des coulées pyroclastiques dévalent sur la ville. Des nuées de gaz, cendres et pierres se succèdent à plus de 100 mètres par seconde. La première est bloquée par les murailles, d'autres déferlent et enveloppent la cité. Pour ceux qui n'ont pu partir, la fin est hélas rapide. Quand ce n'est pas le choc thermique face à un nuage de plus de 100 degrés, c'est l'asphyxie par les gaz toxiques ou les blessures par les débris charriés et les bâtiments effondrés. Pendant qu'autour de la baie, ce qui reste des populations de Mycène, Herculanum, Oplontis ou Stabie tentent de fuir, il est déjà trop tard pour se bloquer à Pompéi ou ailleurs. Ils sont terrassés et recouverts par les cendres qui ne cessent de pleuvoir. Un mètre, puis un autre, et encore un. Les murs des maisons et les colonnades des temples commencent à disparaître avant que tout ne soit complètement recouvert par des mètres de dépôts. Quand le volcan s'est enfin calmé, tout est englouti. Sous la masse grisâtre, tout a disparu sous la terre. Il n'y a plus rien. Et cela, pour longtemps. Mais Pompéi finira par rejaillir de ses cendres. Oui, les siècles ont passé, les civilisations aussi. Nous sommes le 23 mars 1748. Roque Joachim de Alcubierre, ingénieur de Charles de Bourbon, alors souverain du royaume de Naples, est en exploration au lieu-dit La Civita, dans la campagne napolitaine. Alcubierre travaille depuis quelques années déjà sur le site voisin d'Herculanum, récemment mis au jour, petite cité antique enfouie elle aussi lors de l'éruption du Vésuve il y a presque 1700 ans. Par quelques textes antiques, on sait désormais que d'autres villes se trouvaient là, bien que les cendres accumulées se sont couvertes de terre et de végétation. Ce sont désormais les champs qui parsèment la région. Dès l'Antiquité, quelques creusements ont eu lieu pour récupérer des objets, peut-être même du fait de ceux qui avaient réussi à s'enfuir, mais le temps a passé et la localisation du site fut oubliée. Au XVIIIe siècle, les noms de Pompéi ou d'Herculanum ne sont connus que de quelques érudits. Mais les paysans du coin racontent à Alcubierre qu'ils découvrent parfois des bouts de marbre, des statues et des objets à la faveur des labours ou du creusement d'un puits. S'il ne reste rien d'apparent, le nom même de Civita, qui signifie la cité, suggère la nature de ce qui se cache dans le sous-sol. D'autant que lors du percement d'un canal, il y a plus d'un siècle, on avait trouvé beaucoup de marbre et de pierre. On pensait alors qu'il s'agissait des restes de la petite ville de Stabie, celle où Pline l'Ancien a péri pendant l'éruption. Le 30 mars 1748, une douzaine d'ouvriers donnent les premiers coups de pelle. Contrairement au site d'Herculanum, où une terre très dure s'empile sur plus de 20 mètres au-dessus du niveau antique, le terrain de Civita est bien plus facile. 5 ou 6 mètres suffisent pour atteindre les bâtiments d'antan. On procède un peu au hasard. Très vite, les premiers murs émergent, puis une peinture murale. Alcubierre s'empresse de l'arracher de son support pour qu'elle aille orner les galeries de Charles de Bourbon. L'antiquité est à la mode. Les objets d'art romains sont particulièrement appréciés et cette découverte ne fera que nourrir l'engouement. Les trouvailles s'enchaînent dans les années qui suivent. Des fresques, des mosaïques, des statues, des vases et objets par centaines sont extirpés de l'oubli. Les murs, les cours ou les espaces de circulation n'intéressent pas grand monde. On ne cherche pas à comprendre une ville disparue. On cherche des trésors et on en trouve. Les beaux esprits européens commencent à s'intéresser à ces mirifiques découvertes qui attisent le goût néoclassique que l'on retrouve en art et en architecture. En 1763, une inscription gravée atteste qu'il s'agit bien de la ville antique de Pompéi. Si à Herculanum on procédait par le creusement de galeries et tunnels comblés une fois explorés, ici on déblaye des tranchées qu'on laisse ensuite à ciel ouvert. Le site n'est plus seulement qu'une simple réserve à objets d'art, mais un ensemble qui commence à se découvrir dans sa globalité, ses rues, ses fontaines, ces passages surélevés entre les trottoirs, ces maisons aux multiples pièces qui font parfois apparaître des squelettes de victimes. Un peu plus tard, le temple d'Isis ressort des profondeurs, le quartier des théâtres, le forum aussi. Tout est là, figé, conservé, comme jamais on ne l'a vu ailleurs. Les sensibles littérateurs se pâment devant cette incroyable ville qui donne l'impression que les habitants viennent à peine de la quitter. Certains s'inquiètent aussi qu'on en extrait des objets pour les entasser dans un musée. Sans trop se soucier de la conservation de l'ensemble qui se retrouve à l'air libre, sans protection particulière. Mais pour l'heure, les cendres solidifiées de Pompéi ne cessent de recracher 1000 merveilles. Les fouilles sont grandement favorisées par Caroline Bonaparte, l'épouse du roi de Naples, Joachim Murat, durant la domination française. Plus de 600 ouvriers s'activent au début du 19e siècle. Or, le site passe ensuite plus ou moins sous la coupe d'un entrepreneur qui n'hésite pas à s'approprier des terrains et pense plus à ses revenus qu'à la science archéologique. Un jeune inspecteur des fouilles s'insurge justement en 1848 d'une telle avidité. Il se nomme Giuseppe Fiorelli et va participer à donner une seconde vie à Pompéi. Fiorelli est officiellement nommé surintendant du site en 1863 dans l'Italie unifiée. L'homme décide d'instaurer ordre et méthode. Une 20aine d'hectares a déjà été excavée, soit environ un tiers du site qu'il cartographie dans son entièreté, divise en 9 régions et centaines d'îlots pour référencer chaque construction. On change la façon de prospecter pour déblayer les maisons du haut vers le bas, plutôt que par l'intérieur, atteint en passant par le niveau des rues, ce qui permet de mieux comprendre les architectures et de moins les endommager. Fiorelli prend soin de faire consolider les bâtisses après avoir évacué tous les déblais. Chaque objet, précieux ou non, a pour lui une importance et un sens afin de mieux comprendre la ville antique et la vie de ses habitants. Et c'est aussi Giuseppe Fiorelli qui va participer à la légende de Pompéi en faisant ressurgir de façon plus parlante et émouvante encore les traces de ceux qui y ont vécu et qui y sont morts. Le 3 février 1863, Giuseppe Fiorelli est au travail dans une ruelle de Pompéi. On découvre des clés, des pièces de monnaie, et juste à côté, on repère une cavité. À l'intérieur, des os. Oh, un squelette humain. C'est en fait l'espace occupé par un corps qui fut emprisonné dans la cendre et s'est avec le temps décomposé. Fiorelli a une idée. On avait récemment coulé du plâtre dans des trous pour faire apparaître la forme d'objets en bois pris au piège. Le plâtre prend la place de la matière organique disparue, se solidifie. Il ne reste alors plus qu'à briser l'enveloppe pour admirer le moulage. Fiorelli décide de faire de même avec la cavité au squelette et le résultat est impressionnant. Les cendres mêlées à l'eau de ruissellement ont créé une terre détrempée qui s'est faufilée dans les plus fines sinuosités. Lorsqu'on met au jour le moulage, c'est donc un individu qui surgit dans tous ses détails. Il s'agit manifestement d'un homme enveloppé dans une cape. On distingue même les lanières de cuir de ses chaussures. Sa bouche ouverte semble crier sa souffrance. Juste à côté, il y a d'autres squelettes emprisonnés dans la terre. Après moulage, on voit apparaître deux femmes, les jambes mêlées. Sur l'une, on observe même la forme des dentelles et lacets de son habillement. Une autre femme gisait, un tout petit peu plus loin. Voici les premiers corps moulés de Pompéi qui témoignent d'un instant saisissant. On croirait presque voir la douleur dans la crispation, entendre les râles et partager leurs derniers moments, fauchés en pleine fuite avec les quelques sous emportés à la hâte et le dérisoire souci de prendre les clés de la maison pour y revenir. Des corps, on en trouvera beaucoup d'autres, plus d'un millier jusqu'à aujourd'hui, signe que bien qu'il y ait certainement eu des indices avant-coureurs, tout le monde n'a pas pu se sauver. Ces témoignages spectaculaires et qu'on ne voit qu'ici nourrissent la célébrité et l'attrait de Pompéi dont la visite est alors ouverte, payante et organisée. Sous la direction de Fiorelli et de ses successeurs, Pompéi est le plus merveilleux des chantiers archéologiques à ciel ouvert, où les scientifiques vont enchaîner des découvertes permettant de mieux saisir la civilisation antique. Romaine d'abord, avec une ville telle qu'elle était au moment de la catastrophe, puis plus ancienne lorsqu'on atteindra ensuite d'autres niveaux stratigraphiques pour remonter aux sources de la cité. Ce qui fait l'intérêt de Pompéi tient en tout ce qu'il n'y a pas ailleurs. Sur les nombreux sites romains du pourtour méditerranéen, les temples, les théâtres ou les thermes sont légion, les grandes villas aussi. À Pompéi, ils sont souvent en meilleur état. Et on met surtout au jour les ateliers, les boulangeries, les boutiques, les restaurants, les habitats plus populaires, les étages aussi, parfois, ou même des éléments de matière organique carbonisée, du bois, des pins, des fruits. On touche ici à tout ce qui a ailleurs disparu. Très vite, on découvre des textes et des inscriptions. Il y a les messages électoraux peints sur les murs qui invitent à voter pour tel ou tel candidat. Il y a les graffitis par centaines gravés sur les parois, tantôt avertissement aux passants de ne pas se soulager au coin de la rue, tantôt simple blague grivoise ou déclaration d'amour. Au-delà de l'aspect anecdotique et de la sensation d'être au plus près des hommes du passé, ces éléments apportent aussi des clés de compréhension de la civilisation antique. La propagande électorale massive atteste de l'effervescence politique de la cité. Le fait que certains messages se trouvent à l'intérieur des demeures indique aussi un certain clientélisme. Les graffitis omniprésents démontrent un large usage de l'écrit et de la lecture au sein de la population, ainsi qu'un certain niveau de culture, puisqu'on a jusqu'à présent trouvé 17 fois les premiers vers de l'Énéide gravés sur les murs. L'étude des bâtiments montre aussi que Pompéi n'était pas complètement remise du tremblement de terre qui s'était produit 17 ans avant l'éruption. Le temple de Jupiter était toujours au sol. Beaucoup de demeures étaient en chantier. Certaines ont été grandement modifiées. Dans l'une d'elles, on peut même voir la trace de l'erreur d'un artisan qui a fait tomber son seau de chaux alors qu'il enduisait le mur. Peut-être fut-il surpris par l'éruption. On peut aussi déceler l'évolution des programmes décoratifs, comprendre par tel ou tel choix iconographique les changements de goût ou de propriétaire. Pompéi témoigne autant d'un instant T, celui du drame, que du temps long qui permet de saisir les évolutions urbaines, sociales et historiques. Régulièrement, au gré de nouvelles fouilles, les archéologues découvrent des éléments majeurs. Il n'y a pas si longtemps, en 2017, une inscription sur un monument funéraire vantant les mérites de celui qui y repose livre moult informations sur les largesses de ce haut personnage, notamment l'organisation de jeux ou des dons de nourriture après une disette. On y apprend aussi qu'un banquet fut organisé peu avant l'éruption pour la totalité des citoyens, c'est-à-dire les hommes libres, 6840 personnes. Ce chiffre permet aux spécialistes, par extrapolation, d'estimer la population totale autour de 30 000 personnes, femmes et enfants compris, peut-être jusqu'à 45 000 en comptant les esclaves. Et les découvertes permettent aussi parfois de réviser ce que l'on croyait être certain. En 2018, des archéologues travaillent dans la maison dite au jardin en rénovation au moment de l'éruption. Sur une paroi de l'atrium, espace ouvert de circulation qui distribue plusieurs pièces, ils découvrent une inscription faite au charbon de bois. Ce genre de notes temporaires était fréquente, surtout dans cette demeure en chantier dont les murs allaient être repeints. Quelqu'un à hauteur d'homme a écrit « 16 jours avant les calendes de novembre, ils ont prélevé dans le cellier à l'huile. » Puis l'inscription est illisible. Ce petit mot, probablement un pense-bête pour la gestion de la maisonnée, est capital, car 16 jours avant les calendes de novembre, cela correspond au mois d'octobre, comme je l'évoquais au début de mon récit. Or, la lettre de Pline le Jeune, seul témoignage oculaire qui, depuis l'Antiquité, sert de source au sujet de l'éruption du Vésuve, mentionnait, elle, les calendes de septembre et avait permis de dater l'événement au 24 août. L'inscription de la maison au jardin, par nature temporaire et ne datant certainement pas de l'année précédant le drame, mentionne un jour d'octobre. L'éruption ne peut donc pas avoir déjà eu lieu en août. On peut plutôt imputer à quelques moines copistes du Moyen-Âge une erreur de transcription du texte de Pline. De plus, la présence déjà connue de fruits typiques de l'automne dans les amphores pompéiennes constituait un premier indice pour une éruption plus tardive. D'autres inscriptions viendront corroborer la nouvelle hypothèse. Août ou octobre, cela ne change finalement pas grand-chose, mais la détermination de cette nouvelle date prouve en revanche que les informations livrées par le site peuvent aller à l'encontre de ce que l'on pensait savoir et que Pompéi recèle encore de nombreux secrets. Certains archéologues pensent d'ailleurs qu'il serait bon de laisser encore enfouie une partie de la cité pour laisser aux générations futures de bien excitantes découvertes. D'autant que, comme toute ruine, Pompéi est fragile. Les errements administratifs des années 2000 avaient même mené le site vers une certaine déliquescence. Le bâtiment que l'on nommait la caserne des gladiateurs s'est effondré en 2010. Une reprise en main a permis de mieux conserver le site et en attendant de mettre au jour de nouvelles rues et demeures, 1000 informations sont encore à décrypter au sein des îlots déjà excavés. Pompéi a encore beaucoup, mais alors beaucoup d'informations à livrer.